Le billet d'humeur, quand l'information suscite la réflexion, avec le pasteur Gabriel Monet.
Le 31 octobre 2017 va marquer le 500e anniversaire de la Réforme. En effet, c'est lors de la nuit du 31 octobre 1517 que Martin Luther aurait affiché ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Cet événement, aujourd'hui sujet à la caution des historiens, marque une date symbolique de l'essor du protestantisme. Au cœur de la réforme initiée par Luther se trouve la notion de justification par la foi, qu'il découvre en lisant l'épître de Paul aux Romains. Les 95 thèses en question évoquent essentiellement les caractéristiques du salut offert gracieusement par Dieu pour qu'il l'accepte par la foi, et ce, sans que cela ne nécessite au préalable de quelconques œuvres, notamment le fait de payer des indulgences, comme c'était une pratique courante dans l'Église catholique à l'époque. En fait, nous parlons des 500 ans de la Réforme. Mais dans un sens, il serait plus juste de parler de réforme au pluriel. Au cours du XVIe siècle, en effet, on peut en distinguer 5. La réforme initiée par Luther en Allemagne va donner l'Église luthérienne, même si au départ, Luther n'avait absolument pas l'intention de se séparer de l'Église catholique, mais souhaitait contribuer à certaines évolutions internes. Comme cela n'a pas été possible pour diverses raisons politico-religieuses, les nouvelles idées de Luther ont donné naissance à une nouvelle confession. La deuxième réforme allait se développer à partir de Zurich, avec Ulrich Zwingli, et de Genève, en la personne de Jean Calvin, faisant émerger l'Église réformée. Il y avait bien quelques différences entre ces deux premiers courants de la réforme, mais suffisamment minimes pour qu'aujourd'hui, en France notamment, les luthéro-réformés forment une Église unie. La troisième branche de la réforme du XVIe siècle a été la réforme dite radicale, avec en tête de proue les anabaptistes. C'est de ce courant-là que sont nés les baptistes et plus généralement les évangéliques. La réforme anglicane, en Angleterre, et la réforme catholique, parfois appelée contre-réforme, sont venues compléter les changements profonds qui ont marqué le christianisme au XVIe siècle. Cependant, ce sont les trois premières uniquement qui allaient faire émerger le protestantisme, qui, dès son naissance, était donc assez disparate, tant idéologiquement qu'au niveau organisationnel. Ce qui a uni les uns et les autres a été de se retrouver autour de quelques principes clés. La Bible seule, comme source d'autorité de la foi, le Christ seul, la grâce seule, la foi seule, pour signifier que le salut est un cadeau de Dieu pour celui qui croit. S'ajoute à cela le principe du sacerdoce universel, c'est-à-dire que tous les croyants participent au service de l'Église, le principe d'une Église qui se réforme sans cesse, ou encore que toute gloire revient à Dieu seul. Cependant, s'il est indéniable que les racines du protestantisme remontent à cette époque, et notamment à une formule « nous protestons devant Dieu », que des princes ont prononcé devant Charles Quint à la diète de Spire en 1529, l'expression « protestantisme » n'émergera qu'au XVIIe siècle. Faut-il pour autant cantonner le protestantisme à une protestation ? Certes, les protestants sont parfois décrits au travers de trois oppositions au catholicisme, qu'une formulation lapidaire résume en trois mots « un homme, une femme, une chose », en l'occurrence le pape, la Vierge Marie et la messe. Mais en fait, comme le suggère l'étymologie, ainsi que l'usage du mot à la diète de Spire, il ne s'agit pas seulement de protester dans le sens de s'opposer, de critiquer, mais aussi de proposer, d'attester. Testis, qui signifie témoignage en latin, suggère que protester signifie témoigner en faveur de. Il s'agit donc d'attester de conviction. C'est ce que les protestants d'aujourd'hui mettent en avant, notamment en fêtant les 500 ans de la Réforme. Ainsi, le grand rassemblement de Strasbourg, du 27 au 29 octobre, intitulé « Protestants en fête », a choisi pour thème « Vivre la fraternité ». Il s'agit d'une triple fraternité, entre protestants, mais aussi envers les autres chrétiens et croyants, et enfin envers tous, car croire a forcément des implications sociales. Dans la très belle parabole du bon samaritain, Jésus montre bien que le prochain, appelé à être aimé, est n'importe quel frère en humanité. Être protestant, aujourd'hui, implique peut-être de contester certaines valeurs de notre société qui ne correspondent pas à l'idéal biblique, mais il s'agit aussi et surtout d'attester et d'être des exemples de fraternité pour le bien du plus grand nombre.